8h17 sur Europe 1, l'heure de retrouver Sonia Mabrouk et son invitée ce matin, la ministre de la Transformation et de la Fonction Publique, Amélie de Montchalin.
Bienvenue à vous et bonjour Amélie de Montchalin.
Bonjour.
Pourquoi vous attaquez à la haute fonction publique ?
On ne s'attaque d'abord à personne et on ne s'attaque pas à la fonction publique. Aujourd'hui, on a à regarder en face notre État, ses forces, ses faiblesses et aussi le cadre dans lequel il se construit. Depuis 1945, le système de recrutement, de formation, de gestion des carrières de nos hauts fonctionnaires, des 10 000 hommes et femmes qui sont extrêmement engagés chaque jour pour que ce pays tienne, et ils l'ont montré avec beaucoup de force pendant la crise sanitaire, n'a pas changé. Ça veut dire que la révolution technologique, que la révolution climatique, que la décentralisation, quand même un moment important de notre histoire politique, n'a pas été pris en compte dans la manière dont aujourd'hui leur carrière sont gérées.
Mais personne ne dit qu'une réforme n'est pas nécessaire pour moderniser la haute fonction publique, mais en supprimant le corps préfectoral et diplomatique, vous vous attaquez à la verticalité du pouvoir, à un pilier de la République.
Alors d'abord, on ne supprime rien. Oh. On renforce.
Non mais attends, on ne va pas jouer sur
on
les mots.
On ne supprime pas le métier des préfets.
Vous ne supprimez pas le corps préfectoral et diplomatique.
Je ne supprime pas le métier de préfet. On ne supprime pas évidemment le métier d'ambassadeur. On ne supprime pas les métiers. En revanche, est vrai, effectivement, l'engagement du président de la République, c'est de passer d'une logique de corps qui peut être très enfermant, qui crée du déterminisme, qui crée des voies toutes tracées, à une logique de métier. Comment on valorise la compétence, comment on valorise l'expérience, comment on redonne de la mobilité aussi à nos cadres.
Donc vous allez fonctionnaliser, en fait, le corps préfectoral.
On va en faire un métier. Vous savez, depuis
c'est
Napoléon...
C'est une mission, déjà, servir l'État.
Depuis Napoléon, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif. C'est devenu un corps uniquement dans les années 50 et 60.
Créé par Bonaparte, conforté par le général de Gaulle, le corps préfectoral est le symbole de l'État, Madame Montchalin, dans les territoires de France.
Évidemment, ce métier est clé. Évidemment, il est d'ailleurs renforcé dans notre vision parce que nous avons besoin au plus près des Français, d'hommes et de femmes qui soient formés, qui aient les compétences, qui aient l'expérience pour que des Ardennes, au Var, au Calvados, nous ayons dans chaque territoire des hommes et des femmes qui correspondent aux besoins du territoire.
Mais alors pourquoi vous attaquez à ce symbole de lien avec nos territoires ?
Je le redis. D'abord, on ne supprime pas évidemment le métier. Deuxièmement, les Français y sont attachés, les élus y sont attachés. Maintenant, on doit sortir pour l'ensemble des cadres. Et Gérald Darmanin, évidemment, travaille au sein du ministère de l'Intérieur avec les préfets. Jean-Yves Le Drian avec les diplomates. Chaque ministre, ensuite, travaille dans son ministère.
Pas avec ceux qui écrivent des tribunes et des lettres ouvertes de préfets. Puis-je vous les citer ? Donc, tribunes et lettres ouvertes de préfets, puis de diplomates et de fonctionnaires. De fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères qui dénoncent votre réforme qui va se traduire, selon eux, je cite, par la marchandisation de l'État, la perte de son autorité. C'est le moment, perte de son autorité ?
Il faut redire des choses très... Il y a des inquiétudes. Il y a des questions qui se posent à titre individuel sur les carrières, des titres collectifs. C'est pour ça d'ailleurs que demain, nous lançons une consultation. Parce qu'après les principes de la réforme qui sont posés dans une ordonnance, qui est un texte très solennel, qui vient mettre à jour un texte de 1945, qui
vous
n'a pas changé.
Vous lancez une consultation sur quoi ?
Nous lançons une consultation pour que dans la mise en œuvre dans chacun des ministères et pour chacun des métiers, nous n'ayons pas d'angle mort et que nous puissions être très précis dans la manière de faire évoluer les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, un État fort... C'est un État qui est capable d'abord d'être compétent sur les sujets et les défis de son époque. Un État fort, c'est un État qui s'est posé des questions de qui on recrute.
Mais ce sont des grands mots.
Non, c'est pas des grands mots.
Est-ce que vous voulez
comment on recrute, comment on forme?
Quel est votre véritable objectif? Est-ce que vous voulez soumettre ce que l'on appelle l'État profond ou est-ce que vous voulez vraiment réformer l'État au risque de l'ubériser aujourd'hui?
Non, mais il n'y a rien de tout ça. D'abord, on garde un statut. Parce que les hommes et les femmes dont on parle seront des administrateurs de l'État. On croit au statut de la fonction publique. Pourquoi? Parce que j'entends les Républicains, Monsieur Copé, Monsieur Woerth et d'autres, nous dire, nous, on veut mettre tout le monde sous contrat droit privé, ce sera un État plus agile, etc. Je n'y crois pas, parce que le statut, ça protège la neutralité.
Non.
Ça protège la loyauté.
Mais pourquoi les préfets disent l'inverse, Madame la Ministre? Ils disent, vous allez faire cette réforme au risque de favoriser des nominations politiques, ce qui va saper la neutralité des agents et avoir une influence sur ce contre-pouvoir important pour
Depuis
nous.
Depuis Napoléon, les préfets sont nommés par le pouvoir exécutif. Depuis François Ier, les ambassadeurs sont nommés par le pouvoir exécutif. Et chacun comprend bien que c'est pas la politisation, c'est pas la récupération. D'autres s'y livrent. Je pense à Marine Le Pen, par exemple.
Pourquoi dites-vous ça?
C'est parce qu'elle a lancé une tentative de manipulation, de récupération très grave.
En écrivant une lettre au préfet.
En écrivant une lettre qu'elle a tenue secrète, c'est moi qui l'ai rendue publique parce que j'ai trouvé que ce qui s'y passait là, ce sont les vieilles ficelles de l'extrême droite qui essayent de récupérer les généraux, les préfets, puis les policiers.
Mais attendez, pourquoi Marine Le Pen n'aurait pas le droit, comme d'autres candidats, d'écrire au préfet sans que vous n'hurliez à l'attaque anti-républicaine ?
Mais parce qu'on n'écrit pas à nos fonctionnaires pour les récupérer politiquement. Parce que c'est un principe. Les hauts fonctionnaires, ils appartiennent à l'État, ils appartiennent aux Français. Ils ont une loyauté au pouvoir démocratiquement élu. On ne les manipule pas, on ne les récupère pas.
Ils sont assez grands pour savoir ce qu'ils ont à faire et à dire.
Oui, et le gouvernement est là pour respecter les principes d'une république forte.
C'est intéressant, citez-moi ce qui est de nature séditieux ou factieux dans la lettre, par exemple, de Marine Le Pen.
Qu'elle ait été secrète, que ce soit moi qui l'ai rendue publique, oui, que ce soit une œuvre de recrutement, de déstabilisation profonde et interne de notre État.
Vous voyez des putschistes partout. Hein.
Mais je crois que Mme Le Pen ne se cache pas d'avoir, dès 2017, dit qu'elle voulait un État patriote.
Et c'est suspect.
Elle ne veut
de
pas
vouloir
d'un État républicain.
En quoi le mot patriote, c'est suspect, c'est tabou, ce serait négatif?
Mais parce qu'aujourd'hui, l'État, il est d'abord républicain. Il est d'abord... Il protège l'égalité de traitement, la neutralité. Il sert chacun. Et nous ne demandons jamais... parce que je ne crois pas à ce spoil système que certains dénoncent, nous ne sommes pas aux États-Unis. Nous ne demandons jamais aux fonctionnaires quelles sont leurs opinions politiques. Nous ne demandons jamais à tel ou tel que l'on nomme, et d'ailleurs la réforme va le renforcer, nous demandons aux hommes et aux femmes s'ils ont les compétences, s'ils ont l'envie de servir.
Alors,
dans les postes que nous leur proposons.
Parce que, Madame la Ministre, notre haute fonction publique est conçue pour être au service de l'État. Comment pouvez-vous confier cela de manière indifférenciée à des cadres, même s'ils sont de très haut niveau? Ce n'est pas la même chose, vous disent certains.
C'est profondément... l'esprit du général de Gaulle en 1945. Notre réforme, elle est gaullienne républicaine. En 1945, le général de Gaulle, avec Michel Debré, il pose un principe. Il dit, les cadres de l'État doivent pouvoir passer d'un ministère à un autre pour notamment que la politique publique soit faite de manière cohérente, qui sorte des silos administratifs, qui sorte de ce qui enferme. C'était le principe des administrateurs civils en 1945. Nous mettons à jour aujourd'hui cette réalité face à un monde qui a changé. Et donc nous reposons les bases d'un État fort, d'un État cohérent, d'un État efficace. Je crois que les Français, pour qu'ils aient confiance dans leur État, ont besoin d'un État efficace.
Est-ce que vous avez un horizon?
Et donc nous reposons ces principes dans le monde de 2021.
Est-ce que vous pourriez préciser le calendrier de cette réforme et aussi d'ailleurs de la suppression de l'ENA?
Alors, la semaine prochaine, au Conseil des ministres, l'ordonnance qui est présentée donc, au Président et au Premier ministre sera une ordonnance qui mettra à jour cette ordonnance de 1945. Elle pose des principes forts sur la manière dont on recrute, la manière dont on forme, la manière dont les carrières se déroulent, par l'évaluation.
Mais je me demande pourquoi vous ne l'avez pas fait au début du quinquennat en réalité, si c'est si important, si c'est si...
Parce que depuis 2017, le président a posé les jalons, d'abord avec une loi en 2019, avec le rapport de Frédéric Thirier en 2020 et avec ma nomination en juillet 2020 pour la mettre en œuvre.
Ou alors, Madame de Montchalin, vous savez que c'est une réforme qui est à moindre risque et que vous n'allez pas voir débouler des énarques gilets jaunisés dans les rues.
Et c'est une réforme qui, après la crise sanitaire que nous avons vécue, est plus que jamais nécessaire. Le président a toujours été extrêmement clair, transparent. Tous ces discours, toutes ces interventions auprès des hauts fonctionnaires ont posé les jalons de cette réforme. Donc, premier calendrier, la semaine prochaine, nous posons les principes. Nous réécrivons solennellement dans le droit ce qui s'applique à l'ensemble des hauts fonctionnaires. Ensuite, entre maintenant et la fin de l'année 2021, nous allons écrire ministère par ministère, métier par métier, filière par filière, la filière préfectorale, la filière diplomatique, la filière de ceux et celles qui...
Donc ça va aller assez vite.
Donc comment ensuite on décline cela? Et au 1er janvier 2022, nous aurons donc l'Institut National du Service Public qui vient refonder cet institut de formation à la fois initiale et continue. J'insiste parce que l'ENA aujourd'hui n'est pas un endroit où on revient
mais
plusieurs
expliquez-moi,
fois.
Expliquez-moi, parce que ça a l'air si simple quand vous le dites. Vous parlez des oppositions, vous parlez de Marine Le Pen, mais je vais vous citer Manuel Valls qui dénonce un véritable abaissement de l'État. Je vais vous citer Bernard Cazeneuve qui évoque avec la suppression de l'ENA et du corps préfectoral une triple faute. Eux aussi,
écoutez,
madame,
j'ai beaucoup de respect pour l'un et l'autre.
Aussi.
Ils ont été Premier ministre l'un et l'autre. En tant que Premier ministre l'un et l'autre, ils ont fait des propositions qui se rapprochent de ce que nous faisons aujourd'hui. D'une certaine manière, ils ont un peu la mémoire courte. Manuel Valls a proposé, notamment dans un certain nombre, notamment pour les préfets, de faire évoluer le cadre dans le sens que nous avons aujourd'hui. Bernard Cazeneuve avait incité fortement sa ministre de la fonction publique de l'époque, je la connais bien, s'appelle Annick Girardin, elle est dans notre gouvernement.
Quoi, c'est-à-dire ce qu'ils dénoncent qu'ils ont
mais vous savez,
dit
sur ce
il y a
sujet,
quelques années.
Elle avait donc incité Annick Girardin à aller au bout d'une réforme et elle a été lâchée par François Hollande en pleine déroulement de sa réforme. Ce que je dis, c'est que nous avons d'un côté ceux et celles qui ont été aux responsabilités, qui depuis 30
mais
ans ont dit aux Français...
Xavier Bertrand et Valérie Pécresse qui disent
qui
que vous pouvez tout détruire.
Aux Français depuis 30 ans que cette réforme, elle était majeure depuis Jacques Chirac, on en entend parler. Mais elle n'a jamais été faite. Aujourd'hui, nous prenons nos responsabilités.
Madame la ministre, je vous ai cité des opposants de droite comme de gauche. D'où vous vient cette assurance et certains disent même pour vous cette arrogance?
Alors, c'est absolument pas arrogant. Parce que je
de
pense
tout savoir,
que
de savoir de croire qu'on est du bon côté du...
C'est pas une question ni de morale, ni d'arrogance. C'est une question d'efficacité, de confiance dans l'État et de sa capacité à regarder les enjeux du 21e siècle avec les bonnes compétences autour de lui. Ce que je réponds à Mme Pécresse, qui était ministre du budget, de la fameuse RGPP, qui a vidé les préfectures et les sous-préfectures de ses effectifs et de ses forces, c'est que l'autorité de l'État, que les Républicains brandissent à tout bout de champ, ça se construit beaucoup plus en faisant la réforme d'aujourd'hui qu'en faisant ce qu'ils ont fait à l'époque avec Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire d'affaiblir l'État.
Ce matin, dans Zadig,
quand j'entends Xavier Bertrand, Bertrand nous dire qu'il veut la République des territoires et qu'il faut que les élus fassent tout à la place de l'État parce qu'ils seraient plus compétents, mais qui en même temps aujourd'hui nous dit qu'il faut garder
les
préfets.
Vous savez tout et les autres ont toujours tort.
Je dis juste qu'il y a aujourd'hui un besoin de clarté, de cohérence et que cette réforme est trop importante pour être manipulée dans un cadre politicien de 2022.
Dit ce matin dans Zadig, le sous-préfet a quitté les lieux, les services publics sont partis, bref, il cite les professeurs, etc., tous ceux qui tirer des villes vers le haut. On a l'impression que votre réforme, ça va contre ce que dit le président
c'est
ce matin.
C'est l'inverse. Nous voulons justement réarmer nos services publics de terrain. Nous voulons que les hommes et les femmes d'ailleurs commencent leur carrière sur le terrain, dans des postes opérationnels. Que faire une belle carrière opérationnelle ce soit plus vu comme une moins belle carrière que les carrières dans les grands dans les corps d'inspection.
Est-ce que ce que vous dites,
contrôle.
Vous l'appliquez pour vous-même parce que vous dites on lutte contre le corporatisme, le déterminisme. Et vous, dans votre parcours, votre carrière, ça a été le cas?
Écoutez, moi je ne suis pas fonctionnaire. Je me suis engagée au service de mon pays, dans des fonctions politiques qui ne sont pas les mêmes que les fonctions des hauts fonctionnaires. Et je crois à cette mobilité, au fait qu'on puisse servir son pays en partant aussi de quelque chose qui aujourd'hui n'a aucune place dans le système. Les aspirations individuelles des hommes et des femmes. Aujourd'hui, la logique de corps fait qu'on est nommé parce qu'on appartient à un corps, pas forcément parce qu'on a envie de prendre le poste qu'on prend. Et je pense que les Français comprennent très bien que cette logique-là, elle n'aboutit pas forcément à un État efficace pour eux.
Et être préfet, c'est pas une fonction comme une autre aussi, il faut le rappeler.
Et ce sont des fonctions éminemment essentielles que nous voulons renforcer en donnant aux hommes et aux femmes qui exercent ces fonctions la formation, les outils et les perspectives de carrière qui leur donnent envie chaque jour de continuer à faire leur métier.
Et on verra quelles sont les oppositions. Vous l'avez défendu ce matin. Je vous en remercie. Amélie de Montchalin, bonne journée à vous ainsi qu'à nos auditeurs, bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci Sonia.